point d'histoire.
Point d'histoire.
Point d'histoire.
Point d'histoire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première émission d'histoire intitulée Point d'histoire avec Henri Moisé. Henri Moisé, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va un peu expliquer le concept de l'émission. Hein. Vous choisissez une date.
Oui.
C'est ça, hein. Connue ou non, mais qui a une signification d'un point de vue historique.
Et date à partir de laquelle, surtout, on peut mieux cerner une réalité de notre pays. Et une réalité qui, même aujourd'hui, peut nous interpeller. Et l'objectif aussi étant de permettre à ceux qui voudraient prolonger leur connaissance historique à partir de cette date, d'avoir quelques ouvrages de référence.
Alors avant de commencer, là, je voudrais rappeler quand même que vous êtes historien. Vous
oui.
avez été enseignant aussi.
Surtout enseignant.
Et vous avez été chercheur.
Et j'ai contribué à des travaux dans le cadre du CNRS et d'un atelier appelé Institut d'Histoire du Temps Présent, qui est l'héritier du comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale fondé par l'historien Henri Michel. Nos travaux avec Christian Font ont surtout porté sur le département de l'Aveyron.
Et on trouve quelques-uns de vos ouvrages à la médiathèque de Saint-Afrique.
Ouais, sans doute.
Si, si. Et donc là, vous avez choisi une date, le 27 mai 43. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Pourquoi avoir choisi cette date?
Oui, s'il y a une date concernant la résistance française peu connue et injustement méconnue, c'est bien le 27 mai 1943. C'est où tout le monde connaît le 18 juin 40. Mais pour la résistance française, dans sa dualité, résistance intérieure et résistance extérieure, ou France libre, le 27 mai 43 est un moment clé. Un tournant essentiel. Jusqu'à la fin 42, la résistance française est divisée. Des mouvements divers existent. Il y a surtout une méconnaissance de Gaulle et de la France libre vis-à-vis de la résistance intérieure. Et la résistance intérieure, avec ses différentes composantes, majoritairement ne reconnaît pas de Gaulle. Et ce qui va se passer le 27 mai 1943, c'est cette... Une union d'abord, et surtout une fusion dans le cadre du Conseil national de la Résistance. Alors pourquoi le 27 mai 43 est-elle une date majeure? C'est que jusqu'en 42, même le général de Gaulle est contesté. Il n'a pas pu s'imposer vis-à-vis des alliés anglo-saxons. Novembre 42, le débarquement en Afrique du Nord fragilise l'autorité morale, la légitimité du général de Gaulle. Les Anglais ont une stratégie qui leur appartient. Les Américains jouent la carte du général Giraud, un concurrent assez fort. Et voilà que même intervient en Alger Darlan, un transfuge du régime de Vichy. Et c'est le moment où justement... Au sein même de la résistance intérieure, se dessinent des exigences d'unité. Certes, ce ne sont que des velléités, mais déjà, en effet, il y a ce besoin de se retrouver pour deux raisons. De Gaulle a besoin de la résistance intérieure pour affirmer son autorité vis-à-vis des anglo-saxons, et les résistances intérieures ont besoin d'un appui fort à l'extérieur. Ça ne peut être que la résistance de la France libre, qui dispose a priori de l'argent et des armes.
Alors qu'est-ce qui se passe effectivement ce 27 mai 1943?
Alors, au départ, c'est une simple réunion de chefs, de représentants plus exactement, de mouvements de la résistance, avec les partis politiques reconnus et les syndicats. Alors c'est plus un aboutissement, dans un premier temps, qu'un point de départ. Le mouvement d'unification qui a été entrepris déjà, avec les difficultés que j'ai suggéré est l'œuvre de Jean Moulin. Depuis 1942, Jean Moulin a particulièrement réussi à garder des contacts et à représenter le général de Gaulle. Il est parvenu, dans un premier temps, à unifier les mouvements sud de la zone sud. Et ça a donné naissance au mouvement uni de la résistance et à leur représentation militaire, l'armée secrète. Il y a en même temps, fin 1942, janvier 1943, des ralliements politiques à De Gaulle. Ce sont les politiques, les hommes politiques de la Troisième République, notamment Christian Pinault. Ce sont aussi des représentants des mouvements de résistance, Freinet ou d'Astier de la Vigerie. Et ce sont surtout, janvier 1943, les communistes. Il y a là un premier tournant vers l'unification de cette résistance avec la venue à Londres de Fernand Grenier qui, dès le 15 janvier 1943, prononce un discours dont personne ne parle ou très peu, qui est pourtant est essentiel. Le Parti communiste reconnaît de fait De Gaulle, adhère à la lutte armée pour la libération de la patrie et entend évidemment jouer la carte patriotique. Nous sommes au mois de janvier 1943. Jean Moulin fortifie les contacts qu'il a déjà entrepris et on arrive tranquillement, mais avec beaucoup de difficultés, à cette réunion du 27 mai 1943 à Paris. À Paris, ce n'est pas une réunion constituante, on n'est pas dans une assemblée de parlementaires, c'est encore une assemblée, je dirais, de conspirateurs. Mais qui a le mérite de mettre autour d'une table, dans un appartement privé de la rue Dufour, les principaux chefs représentatifs de cette résistance. Ils sont 16, 8 représentent les mouvements de résistance en tant que tels, 8 sur beaucoup d'autres qui évidemment ne sont pas là. Il y a les partis politiques, 3 de gauche, le Parti socialiste, le Parti communiste, les radicaux, Démocratie chrétienne avec Georges Bidault et 2 partis de droite. Le Rassemblement républicain et l'Alliance démocratique. Et il y a, bien sûr, les 2 représentants des 2 syndicats existants à ce moment-là en France, la CGT et la CFTC. FO n'est pas là parce que ça n'existe pas, ainsi de suite. Ces 16 représentants autour de Jean Moulin vont débattre d'une éventuelle unification. Jean Moulin lit un texte que lui a transmis le général de Gaulle. Georges Bidault lit un deuxième texte. Le débat s'engage. Certains témoins dans leur mémoire parlent d'un débat agressif parfois, au point même que Jean Moulin est obligé de rétablir le calme et de demander aux gens de parler moins fort. On est quand même dans la clandestinité. Et il faut surveiller ce qui se passe aussi dans la rue. Et malgré les difficultés, malgré les désaccords, malgré la suspicion que les chefs, notamment de la résistance intérieure, ont vis-à-vis des partis politiques, eh bien, on arrive à un compromis. Et c'était heureux, car à partir de là, il y aura désormais un organisme coordonnateur de la résistance, un lien entre elle et De Gaulle à Londres, et on appelle cet organisme le Conseil national de la résistance. Désormais, comme dit De Gaulle, avant le 27 mai, il y avait des résistances, désormais, il y a la résistance.
C'est donc l'acte constitutif.
C'est la preuve que désormais, il y a une unité, qu'il y a des objectifs communs et que, surtout par les conséquences politiques du CNR, il y a De Gaulle, seule autorité légitime pour tous ces résistants.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer la place de Jean Moulin dans ce processus historique ?
Elle est essentielle. D'abord, qui est peut-être un petit rappel sur ce qu'est Jean Moulin. On en parle beaucoup. C'est un personnage qui est relativement jeune. en 1943. Il est né en 1899. Il est né à Béziers. Il est d'une famille radicale socialiste, donc c'est un homme de gauche. Cette gauche laïque, républicaine, que l'on connaît bien sous la Troisième République. Il a fait des études de droit et il se lance assez vite dans une action politique. Ses qualités sont reconnues, il engage une carrière de sous-préfet, secrétaire général de préfecture et sous-préfet. Après plusieurs postes et de par les liens politiques de sa famille, il est pris par Pierre Cotte dans des cabinets ministériels et donc ce jeune sous-préfet, secrétaire général de préfecture, commence là à pénétrer les milieux politiques et ministériels. On le retrouve notamment dans des cabinets entre 1934 et 1937, où ses qualités politiciennes même sont suffisamment reconnues, et Pierre Cotte le fait nommer préfet de l'Aveyron. Il fait un premier séjour en 1937, revient dans les cabinets ministériels, pour ensuite revenir à nouveau préfet de l'Aveyron, fin 38, début 39. Et en janvier 39, il est nommé préfet de Chartres, où la guerre va le surprendre. Préfet de Chartres, il s'impose tout de suite par son patriotisme, son sens de l'organisation et son courage physique. En effet, le 17 juin, en pleine débâcle, dirions-nous, il ose tenir tête à l'armée allemande qui voulait lui imposer une déclaration infamante pour les troupes françaises, déclaration qui les aurait accusées de massacre et de viol. Or, il se trouve que ce que voulaient faire les Allemands, c'était surtout mettre en cause des troupes coloniales. Et Jean Moulin, non seulement refuse, parce que c'était faux, mais en même temps, par crainte de céder, va se suicider. Mais il est vrai que l'intervention de certains éviteront sa mort. Voilà comment le personnage entre dans l'histoire. Mais il y a une suite. C'est que ce préfet qui est républicain, qui est très attaché à nos valeurs fondatrices, déplaît à vie au régime de Vichy. Et à l'automne 40, il est destitué et il est mis en congé. Il gagne la Provence et en Provence, il va là, pendant quelque temps, découvrir ce qu'est cette résistance naissante. Et la conclusion qu'il en tire, c'est qu'il faut continuer le combat. Et il n'a de cesse de préparer son départ de France, gagner l'Espagne et le Portugal, et rejoindre le général de Gaulle, qu'il rencontre en octobre 1941. Et là, il se passe quelque chose d'assez imprévu. C'est que le général de Gaulle apprécie le sens de l'état de ce jeune préfet, son sens de l'organisation. Il découvre aussi les analyses que lui propose Jean Moulin, et le général de Gaulle va prendre en considération la place et la description que Jean Moulin fait de la résistance. Il découvre qu'il y a en France des troupes prêtes à se battre, qu'il y a là un potentiel pour lui, et c'est sans doute pour ces raisons-là que le général de Gaulle, immédiatement, en quelques jours, choisit Jean Moulin comme délégué de la France libre dans la zone sud. Et il lui confie alors une mission, commencer à réunifier les partisans, les mouvements de résistance, pour en faire une force, évidemment, politique, dont De Gaulle pourrait se servir. Alors, ce qui est important, c'est effectivement qu'en très peu de temps, Jean Moulin, malgré les difficultés, malgré les dévastations, va arriver à sublimer les rivalités, les divisions, les appréhensions des uns et des autres pour les faire se rencontrer. Sinon, il n'y aurait jamais eu le 27 mai 43. Il a réussi par touches successives à convaincre les uns, à déterminer, je dirais, ce sentiment d'unité. Alors, il a d'abord ébauché un projet d'unification assez sommaire et très imprécis, un conseil de résistance. C'était plus que vague, mais il a surtout réussi à persuader, car il avait, semble-t-il, cette force-là, qu'il y avait intérêt réciproque à s'unir. Et je crois qu'il y est parvenu, puisque le 27 mai, malgré toutes les difficultés, et nombreuses, il a unifié les résistants, les mouvements de résistance, il leur a fait admettre la nécessité de la politique, c'est important aussi, et surtout, il a fait accepter De Gaulle comme seul chef dans cette unification.
Et il s'est fait arrêter peu de temps après cette fameuse réunion du 27 mai 1943.
Et c'est à la fois, évidemment, le 21 juin 1943, c'est-à-dire à peine un mois après la constitution du CNR. On aurait pu croire que sans Jean Moulin, arrêté à Caluire, le CNR soit caduque. Eh bien, il n'en est rien. Ce qui montre bien la solidité même de cette construction du CNR, puisque même si Jean Moulin est arrêté, bon, outre qu'il va ne rien dire sous la torture, il va sauvegarder, je dirais, l'avenir de cette résistance. Il le paiera de sa vie, puisque torturé par la Gestapo, Barbie, à Lyon, il va mourir des suites de ses blessures dans le train qu'il emporte en déportation le 27 juillet, semble-t-il, 1943. Mais il est vrai que c'est le moment où cette résistance qui s'unifiait, qui s'organisait, qui envisageait non seulement la lutte armée, mais en même temps une reconstruction de la France, une fois que la libération serait acquise, cette résistance-là est fragile. On est toujours dans la clandestinité. Et la réunion de Caluire, il faut le savoir, est consécutive à une nécessité de réorganisation de la résistance, puisque certains chefs venaient d'être arrêtés, en partie décapités. Et c'est vrai que l'arrestation elle-même pose beaucoup de questions sur la responsabilité des uns et des autres. Y a-t-il eu trahison ? Y a-t-il eu des gens qui ont pris des risques inconsidérés ? Y a-t-il eu des gens qui, peut-être, ont livré des informations à la Gestapo? On connaît le cas de Hardy, on a la certitude que qu'un des agents, Multon, a trahi. Reste que, au-delà de ces interrogations que les historiens semblent aujourd'hui, pour lesquelles les historiens ont, me semble-t-il, les bonnes réponses, il y a là la solidité de ce qu'a fait en peu de temps Jean Moulin, et le CNR, et malgré tous les épisodes que l'on vient d'évoquer, un des éléments majeurs de la résistance, comme l'est le comité de libération créé avec De Gaulle à Londres, qui deviendra, je dirais, le gouvernement provisoire de la République française, ou comme sur le plan militaire, seront les FFI, les Forces Françaises de l'Intérieur, qui ne sont que la réunification des mouvement armé de la résistance.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est la larme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Allez au couteau, tu m'évites. Oh, et Sabatin, attention à ton fardeau. les barreaux des prisons qu'on enferme. La haine à l'autrance et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens creux des vies font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est la larme.
Le chant des partisans, chanté par Marc Augeret. Le chant des partisans, on va peut-être en dire un petit mot, Henri Moisé, c'est un texte, un chant qui a été créé en 1943.
Oui, et je crois que vous avez parfaitement choisi ce qui peut être un lien et en même temps une représentation de ces années 42-43. En effet, à l'origine, ce chant des partisans, que nous appelons nous chant des partisans, est une œuvre musicale composée par une artiste d'origine slave que l'on connaît sous son nom d'artiste, Anna Marli, qui avait fait un chant à la gloire des partisans soviétiques. Ce chant est connu à Londres à l'automne 1942 et il semble avoir été particulièrement apprécié par Dastier de la Vigerie qui cherchait un indicatif musical pour les émissions Honneur et Patrie sur la radio britannique. Et on ne retient de l'œuvre que la partie musicale. Et c'est au printemps 43, au moment où, curieusement, se constitue le CNR, que Dastier de la Vigerie obtient de deux écrivains français de renom, Joseph Kessel et Maurice Druon, le second étant le neveu du premier, une rédaction de poétique à la gloire de la résistance française. Et c'est timidement d'abord ce chant des partisans tel que nous le connaissons dans sa formulation nationale française est devenu peu à peu un chant de ralliement moins connu qu'on ne le croit souvent, il a fallu du temps. En fait, c'est au moment de la libération que le chant des partisans est devenu, je dirais, représentatif de la lutte des maquis et de la résistance. Il y a les maîtres mots, ouvriers et paysans. Chacun peut se retrouver là, dans ce que fut cette lutte populaire de la résistance, bien qu'elle ait été aussi autre chose. Enfin, il y a là une reconnaissance nationale. Et cette reconnaissance nationale, évidemment, se retrouve dans la divulgation, notamment par le cinéma, dans des courts-métrages de cette chanson, avant que, évidemment, ce chant ne devienne aussi œuvre poétique pour des chanteurs. Yves Montand notamment.
Johnny Hallyday, paraît-il.
Johnny Hallyday aussi, ou d'autres groupes plus récents.
Zebda, je crois.
Zebda, oui.
On en revient donc au Conseil national de la Résistance. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'œuvre du CNR?
Alors, c'est vrai que il y a à la fois un effet immédiat. Fin mai, De Gaulle est renforcé dans son pouvoir, dans sa légitimité personnelle. Autrement dit, même s'il y a encore le général Giraud, celui-ci est progressivement marginalisé. Au point d'ailleurs que De Gaulle, dès le 30 mai, va à Alger, qui devient désormais la deuxième capitale de la France libre et de la résistance. Ce leadership de De Gaulle, évidemment, est essentiel, puisque De Gaulle va s'appuyer sur le CNR pour marginaliser, je le répète, Giraud, pour s'imposer vis-à-vis des alliés anglo-saxons, ce qui sera pour lui, évidemment, essentiel pour la suite. Deuxième conséquence, le CNR a un rôle d'arbitre essentiel. Et je crois qu'on sous-estime souvent le rôle qu'a eu le CNR pour atténuer certains désaccords, pour permettre, je dirais, la reconnaissance de l'autorité morale de la résistance. Troisième élément, à la Libération. Plusieurs auteurs insistent sur le caractère de transition qu'a su imposer le CNR entre la période qui pouvait être révolutionnaire de la Libération et des combats libérateurs et le retour de la démocratie. Le CNR a été un lien à la fois de paix, de compréhension et de rapprochement entre les Français. Et cette transition démocratique n'aurait pas été aussi solide et n'aurait pas préparé la restauration démocratique que l'on connaît avec le gouvernement provisoire s'il n'y avait eu le CNR. Dernier point enfin, et c'est important pour nous aujourd'hui au XXIe siècle, c'est la rédaction qui est pour nous une référence du programme du 15 mars 1944. Ce programme dit du CNR, charte du CNR, peu importe les appellations, mais qui est devenu un socle pour notre République et pour la conception même que depuis la Libération nous avons de notre société.
On peut en faire une analyse brève de ce programme
alors,
du CNR, qui est quand même, moi je trouve que c'est d'une modernité extraordinaire.
Oui, d'abord, ce qui en fait la modernité, c'est que cette charte, ce programme du CNR n'a jamais été oublié. Il est souvent cité, et de manière amplement justifiée, par beaucoup d'hommes politiques, ou par des syndicalistes, ou par des citoyens. Et c'est vrai que depuis 1944, ce programme conditionne même les analyses que l'on fait, non pas de l'histoire, mais des besoins de notre société. Alors, ne faisons pas dire au programme ce qu'il ne contient pas. C'est d'abord une œuvre conjoncturelle. En mars 1944, nous l'oublions pas, la France n'est pas libérée. L'organisation, la résistance, les résistances sont encore à rechercher les modalités du combat. Les débarquements n'ont pas eu lieu. Mais il y a, au CNR, dans les pires difficultés du moment, mars 44, c'est le moment où le régime de Vichy est en train de se fasciser. La tentation fasciste est encore très très forte. La milice est omniprésente. Les Allemands sont partout. Eh bien, dans ce contexte-là, les hommes du CNR vont, alors qu'ils ne se rencontrent pas, ils ne peuvent plus se rencontrer directement, élaborer par touches successives, par petits contacts successifs, cette fameuse charte de la résistance. Alors, deux objectifs majeurs. Le premier, on le comprendra, c'est d'organiser la lutte immédiate, le combat pour la libération. Donc, il y a un contenu qui se veut militaire, mobilisateur. Et puis, le deuxième objectif, qui est à plus long terme, c'est une anticipation sur la liberté. Quand la liberté arrivera, quand la libération sera acquise, il faut jeter le socle d'une république que l'on veut plus juste, plus sociale, plus solidaire. Et d'où les débats. Il y a des débats sur l'économie. Que faut-il faire, que faudra-t-il faire pour reconstruire le pays ? Et ça n'est pas qu'un programme économique. Derrière l'économie, il y a le politique, c'est-à-dire la volonté du CNR de casser ce que Vichy a fait, c'est-à-dire cet État autoritaire et corporatiste, et la collaboration qui en a découlé, et la collaboration dans laquelle parfois les détenteurs du pouvoir économique se sont vautrés, d'où les nationalisations. Et la nationalisation, ça n'est pas qu'un moyen de reconstruire, c'est un moyen de casser le pouvoir des collaborateurs économiques. Et si on parle de nationalisation, c'est à juste titre, c'est parce que certains voulaient la socialisation des moyens de production. Il y a une différence sémantique facile à comprendre. Hein. L'autre élément, c'est l'aspect social. Comment faire en sorte que le peuple, et je vais préciser ce mot, soit partie prenante dans la nouvelle démocratie. Si l'on parle de peuple, c'est que toutes les composantes à l'unanimité du CNR ont pris conscience. C'était plus facile pour certaines de gauche que pour ceux de droite. Reste qu'à l'unanimité, ils ont pris conscience que le peuple avait une part essentielle dans les combats de la libération. Il fallait, non pas récompenser, mais intégrer, redonner la parole au peuple qui combattait pour sa liberté. D'où les réformes sociales. Si l'on parle de justice, si l'on parle de solidarité, c'est bien pour que le peuple des travailleurs, là je reprends le mot évidemment très fortement connoté historiquement, le peuple des travailleurs se retrouve dans cette nouvelle république. Et d'où, évidemment, des choix qui restent vagues dans leur formulation, mais très importante dans leurs objectifs. On parle de sécurité sociale, on parle de retraite digne pour que les vieux travailleurs puissent finir leur vie. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas non plus de catalogue, je dirais, de promesses électorales. Ce sont des éléments essentiels d'une future société.
Avant de conclure, on va peut-être donner quelques indications bibliographiques pour nos auditeurs. Que vous avez amené plein de bouquins.
Non, c'était pour justement, dans une production qui est considérable, proposer à ceux qui voudraient prolonger cette courte réflexion par des ouvrages qui sont des ouvrages, je dirais, de synthèse, que l'on peut lire sans être un spécialiste forcené de l'histoire. Alors moi, je recommande quand même, hein, pour éviter beaucoup de malentendus, la lecture de ce petit, je dis petit par le volume, mais si important par les conséquences, le programme du CNR, qui comporte que quelques pages, il faut moins d'une heure, hein, pour en prendre connaissance. On le retrouve sous des formes diverses. C'est que quelques pages à lire, mais je crois que ça peut nourrir la réflexion.
On trouve sur Internet.
On le trouve sur Internet.
Voilà.
Pour ceux qui voudraient avoir une vision synthétique, mais pas simpliste, de la résistance, je me permets de recommander l'histoire de la résistance en France par Henri Michel dans la collection PUF, collection Que sais-je. Dans la même collection et du même auteur, l'histoire de la France libre qui permet, en quelques pages rapides, de bien comprendre le rôle de Jean Moulin et l'importance qu'a eu le CNR. Pour ceux qui voudraient alors mieux cerner la personnalité et l'importance sur un temps très court de Jean Moulin, il y a l'ouvrage Jean Moulin, l'unificateur, donc c'est bien ciblé sur le CNR, d'Henri Michel, ou encore la biographie par l'historien Jean-Pierre Azéma, de Jean Moulin, le rebelle, le politique, le résistant. Et puis alors, pour ceux qui voudraient faire un travail beaucoup plus approfondi, mais c'est un ouvrage, non pas de lecture, mais de travail, le Dictionnaire historique de la résistance, par un collectif d'historiens, dans la collection Bouquins. Il ne faut pas être effrayé par l'épaisseur de l'ouvrage. Ça peut se lire par rubriques successives en fonction des points de précision cherchés.
Eh ben, merci beaucoup Henri Moisé pour cet éclairage sur le Conseil national de la Résistance. Alors on va peut-être parler d'une prochaine émission, oui, le 18 juin.
Il pourrait effectivement être fait un même rappel, une même approche, mais en essayant non pas de rester dans les poncifs habituels, l'appel du 18 juin, l'appel de la Résistance, mais d'essayer de replacer ce que fut cet appel d'un homme seul, le général de Gaulle, à un moment que l'on n'imagine pas. Le 18 juin, c'est encore la guerre, c'est le désordre, c'est la débâcle, c'est l'exode dans notre pays. Il n'y a pas encore d'armistice. Et il est certain que l'importance qu'a eu le 18 juin, c'est pas par ce qui s'est passé ou ce qui s'est dit ce jour-là, mais parce que la mémoire collective en a fait plus tard. Une mémoire collective, c'est vrai, qui est intégrée dans ce que certains appellent la geste gaullienne ou gaulliste. Et si vous voulez bien, donc, je vous donne rendez-vous pour un autre point d'histoire. Mais ce sera le 18 juin 2011.
Merci beaucoup Henri Moisé.
Point d'histoire.
Point d'histoire.
Point d'histoire.
Point d'histoire.